France Culture.
Voltaire disait de lui qu'il avait inauguré l'idée d'un impôt acquis par consentement de la nation en osant dévoiler au grand jour les arbitrages budgétaires qui sont opérés au cœur de la machine étatique. Saint-Simon, dans ses mémoires, en fait un personnage incontournable d'une administration où tout n'est qu'affaire de rapports de force et de réputation. Mais c'est un anonyme qui, en 1727, en donne un bon aperçu de ce qu'a incarné Nicolas Desmarets, soit l'homme passé de commis à premier commis à intendant des finances avant de devenir directeur général et enfin contrôleur général. Général des finances tout au long du règne de Louis XIV, on a remarqué qu'il n'y aurait que trois ministres qui puissent servir de modèle pour les finances, monsieur de Sully pour l'économie, monsieur de Colbert pour l'arrangement et monsieur Desmarets pour les moyens. Remplir les caisses de l'État, mais aussi donner toute son importance à la comptabilité, ériger un savoir économique au service du souverain, comprendre aussi le rôle du commerce dans la prospérité du pays, voilà les missions que Nicolas Desmarets, né en 1648 et mort en 1721, a poursuivi tout au long de sa carrière. Une carrière qui ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille, car l'histoire de Nicolas Desmarets raconte aussi en creux les vicissitudes d'un royaume confronté à la corruption, aux stratégies d'influence et surtout aux difficultés financières considérables qui règnent alors. Tout cela, Desmarets l'avait bien compris. Pour lui, la science de gouverner les États n'est point une suite d'opérations de géométrie et d'algèbre, et gérer les finances est aussi, voire surtout, un exercice politique. C'est donc à cet homme d'État et d'expertise que nous consacrons notre émission du jour, répondant là à l'espoir d'un autre commentateur, cette fois en 1776. Monsieur Desmarets, connu, sera mis au niveau de Colbert et des plus grands hommes, mais est-ce chose si certaine? Pour le savoir, retour en une heure sur le parcours d'un homme qui, s'il n'est pas forcément resté dans la mémoire collective, a pourtant incarné la façon dont l'économie se pratique au temps du Roi Soleil. Dans cette émission préparée par Paul Weinharter, programmée par Bruno Barada, réalisée par François Zolfloc et mise en onde aujourd'hui par Timothée Hubert. Pour dresser ce portrait, j'ai le plaisir de recevoir Anne Conchon. Vous êtes professeure d'histoire économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse à l'IDES. Les dynamiques économiques de la Révolution française, c'est un ouvrage auquel vous avez collaboré, publié par le ministère de l'économie et des finances et qui est un condensé de nombreux actes de colloque. Bonjour à vous.
Bonjour.
Stéphane Guerre, vous êtes professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Blomet, docteur en histoire moderne et membre du MEMO, le Centre d'histoire des sociétés médiévales et modernes. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, on pourrait commencer par le plus évident peut-être, Nicolas Desmarets, le Colbert oublié du Roi Soleil, paru chez Champvallon en 2019. On peut également citer un atlas de la France moderne 16e-18e siècle, rédigé avec Boris Le Sueur aux éditions Autrement et paru cette année. Et enfin peut-être un dernier ouvrage pour la route, paru aux presses universitaires de France, intitulé Louis XIV, et ça c'était en 2022. Stéphane Guerre, Joël Cornette, dès les premières lignes de votre ouvrage qu'il a préfacé, estime que Nicolas Desmarets ça a été relégué dans l'arrière-boutique de l'histoire, je le cite là. Du reste, en 1984, France Culture avait déjà consacré une émission à Nicolas Desmarets, mais l'émission s'intitulait « Les inconnus de l'histoire », tout est dit quelque part. Alors pour quelle raison a-t-il été victime, selon vous, d'un certain oubli ?
Bonjour. Alors il a été victime d'un certain oubli, d'abord parce que il fait partie d'une génération de ministres qui sont plus discrets, on va dire, que la période Louvois ou Colbert, c'est-à-dire il y avait une démesure ministérielle, des réseaux de clientèle qui recouvrait tout le royaume. Disons que on appartient à une génération de ministres un peu plus discrète. Deuxième chose, Nicolas Desmarets ne correspond plus à l'esprit du temps, si je parle du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que dans le siècle qui s'ouvre avec la régence à la mort de Louis XIV, il apparaît comme l'homme qui a inventé un impôt en pleine période de disette, donc il est un petit peu à contre-temps. Et donc, quand les finances vont devenir un débat public malgré la volonté du roi de préserver le secret d'État, c'est-à-dire après les années 1750, ceux qui sont pour la transparence France, comme vous avez cité Voltaire, vont se réclamer ou vont chercher des modèles plutôt comme Sully, même si c'est un Sully tout à fait mythique, c'est-à-dire quelqu'un qui favorise la prospérité, le grand homme au sens du XVIIIe siècle, celui qui fait un bienfait pour la nation plutôt que servir le roi. Et les défenseurs de la monarchie absolue, c'est-à-dire avec une intervention de l'État dans l'économie, si on prend des termes un petit peu anachroniques, vont plutôt rechercher Colbert, parce que démarrer... Certes, a participé, j'allais dire, au salut du royaume. Il a eu un rôle essentiel, mais il n'empêche qu'en 1713, lors du congrès d'Utrecht, la France ne sort pas aussi victorieuse que de la guerre de 30 ans. Or, la guerre de 30 ans, effectivement, il y a eu des difficultés. Il y a eu une période très dure avec Richelieu-Mazarin, mais c'était quelque part des grands serviteurs du roi parce qu'ils avaient renforcé l'État. 1715 sonne un peu moins... comme ça. Et ensuite, Desmarets a laissé beaucoup d'écrits, mais effectivement, à part le compte-rendu du régent sur lequel je vais revenir, a laissé des écrits qui sont restés, j'allais dire, à l'interne, enfin, qui sont des écrits bureaucratiques ou des écrits destinés à sa famille. On va peut-être y revenir. En revanche, si Desmarets est finalement peu connu, il y a peu d'anecdotes, si vous voulez, qui permet une sédimentation de la mémoire, sauf chez Saint-Simon. Mais Saint-Simon est publié finalement plutôt au XIXe siècle. Il a laissé un texte qui, par contre, est majeur et qui a été oublié peut-être en raison de la rupture révolutionnaire. C'est un compte-rendu qu'il écrit pour le régent en 1716 où, année par année, il décrit le secret des finances, sa pratique politique, les choix qui ont été faits. Et ce texte, évidemment, n'était pas destiné normalement à être publié, sauf qu'il est publié en 1716. Et ce texte va avoir une très grande postérité au XVIIIe siècle. Montesquieu en parle, Voltaire en parle, etc. Mais, effectivement, la Révolution française va un peu le faire oublier. Et finalement, au XIXe siècle, on voudra parler d'un ministre des Finances qui révèle le secret des Finances. On parlera de Necker et du texte qu'il a publié sur le compte-rendu des Finances en 1781. Alors que le premier ministre des Finances à avoir rompu ce secret d'État, c'est bien Desmarets.
Eh bien, écoutez, puisque nous abordons d'ores et déjà ce fameux compte-rendu au régent, je vous propose d'en écouter un extrait, justement.
Le feu roi m'ayant fait celui de me choisir le 20 février 1708 pour remplir la place de contrôleur général des finances, j'ai soutenu, avec un travail continuel et bien pénible, le poids de cet emploi jusqu'au 1er septembre 1715. Votre Altesse royale sait parfaitement que le contrôleur général des finances n'est ni ordonnateur ni comptable depuis le règlement du 5 septembre 1661. Par lequel le feu roi supprima pour toujours la commission de surintendant des finances. Ainsi, n'ayant fait aucune gestion qu'en vertu des ordres du roi, je ne suis point obligé d'en rendre compte. Mais un motif d'honneur et le respect que je dois à votre Altesse royale me presse également de donner des éclaircissements sur l'état où étaient les finances au 20 février 1708, sur ce qui a été fait pendant 7 ans et demi, jusqu'à la mort du roi, pour soutenir les dépenses de la guerre et de tout l'État, et sur la situation où étaient les finances au 1er septembre 1715. Le premier objet auquel je donnais toute mon attention fut de reconnaître les dettes de l'État et les papiers qui étaient décrédités et qui avaient fait resserrer l'argent à un tel excès que le paiement des troupes avait manqué dans presque tous les départements. On ne pouvait sans imprudence faire publiquement cette reconnaissance. Il fallait au contraire cacher le mal pour ne pas manquer totalement. Mais les papiers qui étaient dus au public ont été si connus que la simple explication en fait voir la vérité.
Un texte qui, nous l'avons dit, n'était pas destiné à être publié, mais l'a été finalement en 1716 et qui donne un bon aperçu finalement de ce qu'a incarné aussi Nicolas Desmarets, cette idée de passer du secret, presque professionnel on pourrait dire, du sein de l'État à une forme de transparence, et nous donne aussi un bon aperçu de toutes les missions qui ont été les siennes et de celles qu'il s'est lui-même, ce qu'il a lui-même incarné dans un certain sens. Là, Anne Conchon peut en revenir à cette idée d'un paradoxe aussi dans l'oubli. Alors on a commencé à en expliquer les raisons avec Stéphane Guerre, mais on le voit, il a un rôle crucial, il l'incarne très bien aussi. Comment expliquer cet oubli-là? Et puis si on devait justement réincarner peut-être Nicolas Desmarets et puis essayer de comprendre ce qu'il a laissé aussi en héritage, comment on qualifierait cet héritage selon vous, Anne Conchon?
Alors, Nicolas Desmarais, effectivement, fait partie de la série, je dirais, des contrôleurs généraux de Louis XIV, un peu oubliés. Ils sont progressivement redécouverts. Je pense aussi à un de ses prédécesseurs, qui est Claude Le Pelletier. Mais globalement, effectivement, il y a quand même un vide historiographique entre Colbert, ça a été dit, et la Régence, et notamment le système de l'As, qui est précisément, qui a vocation à rétablir les finances du royaume. Donc il y a effectivement toute cette parenthèse de techniciens de l'économie et des finances qui correspond à une génération de contrôleurs généraux assez assez oubliés.
Et c'est peut-être un point sur lequel il faut insister, Anne Conchon, vous avez mentionné le mot de technicien, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir de Nicolas Desmarais, ce n'est pas un théoricien de l'économie dans l'absolu, c'est un homme de pratique, bien davantage.
Alors c'est un expert, hein, pour reprendre le terme employé par Stéphane Guerre dans son ouvrage, c'est effectivement un technicien qui peut se prévaloir d'une expérience dans le maniement des finances depuis son, je dirais, ses jeunes années. Il a une carrière tout à fait traditionnelle, puisqu'effectivement, il est issu des milieux des offices des finances. Il va s'occuper effectivement pendant plusieurs années de fermes d'impôts indirects. On y reviendra peut-être dans les années 1670. Et puis ensuite, il occupe au sein de l'appareil d'État un poste tout à fait fondamental, qui est le chef du bureau des États ouvrais. Donc c'est vraiment, pour le coup, vraiment de la technique comptable. Les États ouvrais étant, on dirait aujourd'hui, l'équivalent de l'exécution du budget, même si voilà, le terme peut paraître anachronique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut véritablement se prévaloir d'une grande expérience. Et cette expérience, on reviendra sans doute sur sa disgrâce, mais il va véritablement, avant de devenir contrôleur général des finances, par ailleurs l'exercer dans une fonction qui est aussi extrêmement stratégique au contrôle général des finances, qui est un poste de directeur des finances. Il y a deux charges qui sont créées au tout début du XVIIIe siècle. Il en occupe une. Et dans son dans sa charge, il a plus particulièrement donc la tutelle des intendants de finances, mais il a aussi certains dossiers spécialisés, notamment de la fiscalité indirecte, la question des monnaies, la question de la capitation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un technicien et qui, dans ses écrits, il en a été question, écrit comme technicien. C'est-à-dire que, indépendamment du mémoire du régent, il y a une volonté chez Desmarais de resituer son action dans la longue durée.
C'est ce que j'allais vous demander, Stéphane Guerre, parce que vous nous avez dit effectivement qu'il y a de nombreux écrits laissés notamment par Nicolas Desmarais. Dans ces écrits-là, on est d'accord, il n'élabore pas de théorie spécifique. Alors qu'est-ce qu'il élabore, on va dire, en termes de pensée? C'est un état des lieux, finalement, de l'état financier de la France, où il a quand même une vision de la façon dont pourraient être conduites ces finances, d'une façon, on va dire, plus ou moins idéale.
Alors avant de répondre sur Desmarais, je vais vous dire que souvent, dans certains ouvrage d'histoire un peu ancien, on parlait des idées économiques des contrôleurs généraux des finances, on les comparait à celles de Bois-Guilbert et compagnie. En fait, c'est pas du tout ça. Ce sont des gens, ça veut pas dire qu'ils ont pas une réflexion, mais leur réflexion est toujours empirique, ou en tout cas au service de leur pratique du pouvoir, au service de l'État. Vous prenez tous les écrits de Desmarais, et j'en ai dépouillé quelques-uns, il n'y a jamais de référence abstraite, jamais de référence à un auteur. Quand vous prenez sa bibliothèque, il n'a même pas la dîme royale de Vauban, qu'il a pourtant lu, mais il n'a même pas songé à la conserver. Donc, il ne faut pas du tout voir ces ministres des Finances comme des gens qui seraient des idéologues ou qui seraient des théoriciens de l'économie. Alors, il n'empêche, il y a une réflexion. Alors, il se distingue un petit peu quand même de Le Pelletier ou de Chamillard, qui sont d'abord des gens qui sont des magistrats, qui ont une culture parlementaire et qui ont gravi peu à peu les échelons, j'allais dire, de la magistrature avant d'être repérés par le roi. Bon, on dira tout le mal que Saint-Simon pense de Chamillard peut-être tout à l'heure. Desmarais, c'est un peu différent. Desmarais, c'est d'abord le neveu de Colbert, qui a été formé par Colbert, et comme l'a dit Anne, il a appris progressivement, mais des fonctions très techniques. Il a toujours adopté le point de vue de l'État. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne pense l'économie que du point de vue de la puissance de l'État. Et il a produit à cette occasion toute une série d'écrits administratifs. Mais il se trouve que sa vie est en dents de scie. Il y a des périodes où il n'est plus au pouvoir.
La fameuse disgrâce.
La fameuse disgrâce, on va y revenir. Mais Il n'est jamais trop loin du pouvoir. C'est pour ça aussi que c'est un personnage très intéressant. C'est-à-dire que, bon, Louis XIV, on dit, a souvent intérêt des générations de ministres. Hein, si vous prenez le Letellier, Louvois, Barbezieux, bon. Desmarais, il a toujours été à proximité du pouvoir sur tout le règne personnel. Soit en fonction, soit dans les coulisses du pouvoir. Alors comment ? En produisant des mémoires qu'il écrivait pour des parents lui, mais ses parents sont ministres, ou conseillers d'État, etc. Et puis même... pour ses prédécesseurs comme ministre des Finances.
Anne Canchon, vous souhaitiez réagir.
Oui, bah, effectivement, donc c'est quelqu'un qui est un praticien, c'est un praticien extrêmement pragmatique. Et effectivement, il connaît toute cette littérature grise d'auteurs qui sont ce qu'on appelle à l'époque des donneurs d'avis, qui proposent effectivement des projets de réforme de la fiscalité, des réformes financières, des propositions de réforme économique. Ces mémoires, ils sont centralisés, ils sont lus, ils sont décortiqués. Et comme directeur des finances, puis comme contrôleur général des finances, il connaît tout ça. Et notamment, il a été question effectivement de Boisguibert ou de Vauban, qui sont vraiment les deux auteurs qu'on associe généralement effectivement à cette période-là, qui sont des réformateurs de la fiscalité. Et Nicolas Desmarais les connaît. Voilà, décale par rapport aux propositions de Boisguibert pour différentes raisons, parce que pour lui c'est impensable dans un état de guerre de mettre à mal tout le système fiscal.
Vous avez mentionné l'idée d'un état de guerre, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte et qui qualifie tout l'Ancien Régime, c'est ce que nous disait Daniel Dessert, l'historien, en 2007 au micro de 2000 ans d'histoire.
Il faut savoir que la guerre est omniprésente puisque la France fête entre 1515 Marignan jusqu'à Waterloo 1815, c'est-à-dire pendant trois siècles, la guerre plus d'une année sur deux. L'état normal de la France, c'est la guerre. Il faut payer la guerre. Et comme le disait Montecuccoli, il n'y a qu'une seule façon pour faire la guerre, c'est premièrement de l'argent, deuxièmement de l'argent, troisièmement de l'argent. Donc, il faut absolument tirer de l'or et c'est le rôle du responsable des finances.
L'état normal de la France, c'est la guerre et c'est effectivement ce contexte-là aussi qui va beaucoup marquer la fameuse expérience et l'expertise aussi de Nicolas Desmarais. Stéphane Guerre, on l'a compris, il arrive tout de même à des niveaux de responsabilité très importants, Nicolas Desmarais, à un moment où la situation financière, mais aussi diplomatique et militaire est très compliquée pour la France. Toute la question est de savoir s'il a les compétences pour faire face à cette situation-là. Et c'est là où il faut reprendre les choses depuis le début avec Nicolas Desmarais, c'est de comprendre dans quelle mesure son milieu, mais aussi la formation qu'il a reçue, l'ont préparé d'une certaine manière à accéder à ce niveau de responsabilité-là.
Alors, Nicolas Desmarais, je dirais, il est d'abord le neveu de son oncle. C'est-à-dire qu'il est le neveu de Colbert. Et dans l'Ancien Régime, il était assez... pratique où ça arrivait souvent que les oncles s'intéressent au destin de leur neveu et donc Colbert va appeler Desmarais très jeune en 1664, lui dit 1664 dans la mémoire mais je pense il a quand même un acquis comptant pour 1663 donc je dirais plutôt 1663, il arrive auprès de Colbert et il travaille dans ses bureaux comme commis, c'est vraiment à la base et d'ailleurs pas du tout dans les finances, au départ c'est la maison du roi, la marine, puis rapidement on voit qu'il se spécialise plutôt dans les affaires financières, et puis très rapidement il devient premier commis, et puis finalement il va être promu intendant des finances, c'est-à-dire c'est officiellement le second de Colbert. Il y a deux intendants des finances, il est un des deux.
Et de fait, il intègre ce fameux clan Colbert, c'est important de le dire. Il y a certes, on va dire, les liens entre un oncle et son neveu, mais il y a une stratégie aussi très familiale, très renforcée aussi de la part de Colbert. C'est quelque chose qu'explique le fameux duc de Saint-Simon dans ses mémoires. Saint-Simon qui fut donc le contemporain de Nicolas Desmarais, dont il dresse là le portrait.
C'était un homme d'un esprit net, lent et paresseux, mais que l'ambition et l'amour du gain aiguillonnaient, en sorte que Monsieur de Seignelay, son cousin Germain, l'avait pris en aversion, parce que Monsieur Colbert le lui donnait toujours pour exemple. Il lui fit épouser la fille de Béchamel, secrétaire de conseil, qui devint après surintendant des finances et affaires de Monsieur quand il chassa Boisfranc, beau-père du marquis de Gèvres. Desmarais, élevé et conduit par son oncle, en avait appris toutes les maximes et tout l'art du gouvernement des finances. Il en avait pénétré parfaitement toutes les différentes parties, et comme tout lui passait par les mains, personne n'était instruit plus à fond que lui des manèges des financiers, du gain qu'ils avaient fait de son temps, et par ses connaissances, de celui qu'il pouvait avoir fait depuis.
Cette idée d'un très bon connaisseur des finances, très habile aussi, c'est un mot qui revient beaucoup dans la mémoire, on va dire, et dans les archives qu'on a pu retrouver et qui mentionne Nicolas Desmarets. C'est quelque chose qui peut-être survit, on va dire, à travers le temps, même si nous l'avons évoqué, il y a un certain oubli en ce qui concerne sa personne. Stéphane Gard, peut-être un petit mot de ce que représente la mémoire de Saint-Simon en tant que source dès lors que l'on s'intéresse à Nicolas Desmarets. Dans quelle mesure peut-on s'y fier ?
Disons que Saint-Simon, on ne peut pas travailler sur le règne de Louis XIV sans utiliser Saint-Simon. Même quand on déplore son subjectivité toujours présente, un certain nombre d'informations qu'il est impossible de prouver ou qui sont très douteuses, et ses jugements l'emporte-pièce. En plus, c'est très intelligent, donc c'est très fascinant. Saint-Simon, c'est le top. Je veux dire, il fait des analyses quasiment sociopolitiques. Enfin bon, mais le problème de son exactitude me semble toujours posé. Donc moi, généralement, quand j'utilise Saint-Simon, j'essaie de toujours le faire confirmer par une autre source, et au moins, sinon, j'emploie le conditionnel parce que bon. Alors concernant le portrait des ministres des Finances de manière générale et de Desmarets en particulier sont toujours détestables parce que Saint-Simon c'est une contre-histoire du règne de Louis XIV et donc évidemment il déteste le système de pouvoir louis-quatorzien et qui incarne plus ce système louis-quatorzien que les ministres des Finances. Alors avec Desmarets il y a une dimension en plus biographique puisqu'il a été l'ami de Desmarets donc on sent toute l'aigreur de la déception et en fin de compte Desmarets va incarner trois défauts qu'il reproche d'ailleurs aussi à d'autres ministres, c'est-à-dire la duplicité, vous n'avez pas cité le passage, mais quand il décrit son physique, il dit un physique très doux, mais alors quelle brute à l'intérieur. Donc même physiquement, il y a une espèce de mensonge sur le personnage. C'est quelqu'un qui est évidemment ingrat, et là c'est aussi l'ami déçu, et c'est la brutalité. Et ça, c'est la brutalité qu'on retrouve aussi dans les portraits de Louvois ou des autres ministres des Finances. Et donc, c'est un portrait à charge, un portrait au noir de Desmarets, et Saint-Simon ne cache pas, comme il a l'oreille du régent, qu'il fait tout pour le faire chasser du pouvoir en 1715, et je termine juste, on pourrait dire qu'un duc et pair de France qui ait un tel ressentiment, ça correspond pas au code de l'honneur aristocratique. Au roman, dans ses mémoires, il nous raconte une anecdote. Il rencontre Desmarets qui, cette fois, a été chassé du pouvoir, et Desmarets lui dit qu'il a eu raison, qu'il a été ingrat. Et donc, d'une certaine manière, le portrait turé confirme le portrait au noir du ministre. Alors, c'est un jeu d'écriture, mais c'est pour vous dire que je suis extrêmement méfiant des propos rapportés par Saint-Simon concernant Desmarets.
Attention, même méfiance, ou il y a tout de même une part de vérité, en tout cas, à retrouver au moins chez Saint-Simon.
Non, je voulais réagir surtout à l'extrait sonore et notamment à son appartenance au clan Colbert, puisque effectivement, il y a quand même un appareil d'État et une cour qui est travaillée par des réseaux clientélaires quand même extrêmement puissants. Et je dirais que l'appartenance au clan Colbert est à double tranchant pour Nicolas Desmarets, parce que effectivement, ça a très largement favorisé son insertion dans l'appareil d'État à partir des années 1660-1670 et assuré sa promotion au sein de celui-ci. Mais à la mort de Colbert en 1683, effectivement, les logiques de clan font que, effectivement, il perd un certain nombre de ses protections et que, voilà, on va y revenir, je pense, mais ça explique aussi en partie sa disgrâce à ce moment-là. Et symétriquement, je dirais, Nicolas Desmarets reproduit ce système clientélaire quand il est au pouvoir. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il assoit la puissance, voire la toute puissance du contrôle général des finances sur ses fidèles, sur ses parents, sur des liens très forts qu'il a avec son cousin qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères, avec son frère, ses deux beaux-frères qui sont conseillers d'État. Donc on voit véritablement des logiques de clan pour tenir le pouvoir et les finances de l'État.
Cela étant dit, Stéphane Guerre, être proche de Colbert, en l'occurrence être son neveu, c'est certes bénéficier de ce réseau, de ces liens de sociabilité, mais il faut aussi ajouter qu'il y a un véritable fond. Quand on parle de compétences chez Nicolas Desmarets, c'est une formation aussi que lui offre Colbert.
Colbert n'est pas toujours très sympathique avec sa progéniture quand il sent que sa progéniture ne va pas, mener les affaires du roi comme lui les menait. C'est-à-dire que, bon, en fin de compte, avec Colbert, on a une double logique. On a une logique domestique et clientélaire, c'est-à-dire qu'il veut qu'un certain nombre de ses fils... Alors, on va revenir sur Desmarais parce que le contrôle général, c'est un peu particulier. Il ne peut pas le faire succéder au contrôle général parce que c'est une commission. Mais il n'empêche, il veut... Il a une maison, au sens aristocratique du terme, d'une certaine manière, et il veut que ses fils puissent lui succéder à certaines fonctions, ou appuyer son fer Croissy, etc. Donc ça, c'est la logique domestique. Mais Colbert, il incarne aussi la logique de l'État. Honnêtement, quand vous lisez les premières communications qu'il écrit aux intendants contrôleurs généraux, il leur apprend la langue de l'État. Il leur apprend à regarder le royaume. Il leur apprend à enquêter sur le royaume. Il est le principal inspirateur, avec évidemment les Letelier à la guerre, d'un certain esprit des institutions, d'une certaine administration. Et donc, Desmarais, si vous voulez, il est toujours à la conjonction de ces deux mouvements. C'est-à-dire qu'il est à la fois l'homme du réseau Colbert, celui qui, évidemment, a été protégé par son oncle, parce qu'il a une ascension qu'on ne peut pas expliquer sans la protection de son oncle.
Très jeune, oui.
Très jeune, mais Colbert, c'est aussi une exigence, c'est aussi une compétence, c'est aussi une formation. Alors, je n'ai jamais trouvé, enfin, à part indirectement quelques correspondances, des traces de conseils de formation de Colbert à Desmarais. Par contre, on a toutes les lettres que Colbert écrivait à Seignelay pour que Seignelay lui succède à la marine, et on voit que c'est quelque chose de très dur. En fait, au sens bourdieusien, il veut vraiment faire incorporer à son fils un habitus bureaucratique. Il lui dit même, le matin, quand vous apprêtez, que vous allez prêter, vous apprêtez justement aussi à monter dans votre carrosse, il faut penser déjà à telle affaire, etc., etc. Enfin, et c'est très exigeant, très rigoureux. Mais un autre de ses fils, Colbert, ne va pas jouer le jeu et ne lui succédera pas à la maison du roi. Mais donc, du coup, avec Desmarais, il a quelqu'un qui répond. Il écrit une lettre à sa sœur Marie Colbert, la mère de Nicolas, Desmarais, pour lui dire qu'il donne pleinement satisfaction, ce qui dans la bouche de Colbert est un compliment relativement rare, et ce qui explique aussi l'ascension, c'est-à-dire il le fait à intendant des finances, et ça c'est très important pour Desmarais, parce que Desmarais va garder aux yeux du public, de la cour, parce que le mot public évidemment pas entendre au sens opinion publique aujourd'hui, mais il va garder aux yeux d'une partie de la société cette image de compétence, parce que d'une certaine manière on considère que Colbert lui a pris le secret des finances. De l'oncle au neveu, il y a une part de la technicité de Colbert qui est passée à Desmarais, et il va l'exploiter sans arrêt, parce que comme le disait Anne tout à l'heure, il ne cesse dans ses mémoires, de se rappeler qu'il est bien le neveu de son oncle, qu'il a travaillé sous son contrôle, etc. Donc, cette hérédité, c'est aussi une manière d'objectiver son expertise.
Et de sa légitimité. Alors, Anne Conchon, il faut bien comprendre aussi le contexte dans lequel on se trouve et les mécanismes aussi économiques, financiers auxquels fait face Nicolas Desmarais. On l'a dit, c'est en 1663 qu'il est recruté, donc très jeune. Il s'occupe alors des expéditions pour le département de la Maison du Roi et pour celui des affaires de marine. Il traite également de finances par l'intermédiaire de la correspondance du ministre. On le voit, c'est quelque chose, ça relève plus du rapport personnel effectivement à Colbert que d'un ministère spécifique. Il devient ensuite premier commis, puis son oncle lui aurait délégué rapidement la direction des fermes. Alors les sources, je crois, sont assez floues pour déterminer le moment exact de cette délégation. Mais grosso modo, avoir 20 ans et être directeur des fermes, ça semble ambitieux. Mais là, Anne Conchon, il faut nous rappeler, nous expliquer aussi en quoi consistent ces fameuses fermes et pourquoi cela rentre, on va dire aussi, sous la tutelle d'un ministre comme Colbert et donc de ses exécutants à l'époque comme Nicolas Desmarais.
Alors, le principe de l'affermage, puisque c'est de ça dont il est question, c'est affermer des impôts indirects pour permettre effectivement à la monarchie de récupérer rapidement des liquidités. Donc, en gros, ce sont des contrats qui sont passés entre la monarchie et des financiers qui s'occupent de la perception des impôts indirects. Donc, l'impôt sur le sel, les aides qui sont principalement, mais pas seulement, sur les boissons, et puis toute une série de droits sur les circulations intérieures, ce qu'on appelle les droits de traite, qui sont des droits de douane. Mm-hmm. Et donc on a effectivement cette affermage de l'impôt indirect qui permet effectivement à l'État de trouver facilement de l'argent et de se décharger symétriquement du coût de la perception de ces impôts. Et en matière de fiscalité indirecte, Nicolas Desmarais est intéressant parce que c'est lui qui va mettre, qui va commencer sa carrière dans la gestion des fermes des impôts indirects, mais qui va ensuite mettre ces mêmes impôts indirects en régie, c'est-à-dire sous administration directe de l'État.
Et en modernisant donc d'une certaine manière aussi ces mécanismes-là de collecte, il y a un autre endroit qui, où finalement la biographie de Nicolas Desmarais nous renseigne sur les façons, les moyens qu'a l'État de remplir ses caisses à cette époque-là. À 23 ans, Nicolas Desmarais devient avocat au Parlement. Fin 1671, il acquiert une charge de conseiller à la deuxième chambre des enquêtes pour la modique somme de 100 000 livres. C'est une somme à l'époque considérable. Il ne peut d'ailleurs pas s'en acquitter, doit demander de l'aide, on va dire, à son père. C'est l'occasion, Stéphane Guerre, de comprendre un point essentiel. À l'époque, les charges sont payantes. C'est une façon de remplir les caisses de l'État. Quels postes sont ainsi concernés?
Alors, c'est toute une série d'offices. Alors là, vous parlez d'offices quasiment, enfin, qui s'exercent au niveau du pouvoir central. Mais les officiers de justice, les officiers de finance, c'est, j'allais dire, au départ, une forme d'administration régulière de la monarchie. Sauf que depuis, d'autres types de charges, avec des commissions, en particulier les intendants, se sont superposés à ça. Et on pourrait même rajouter, puisqu'on parlait des fermes, les employés de la ferme, qui sont pourtant des entreprises privées, d'une certaine manière, ont une délégation de responsabilité publique. Par exemple, on en parlera peut-être, mais les douanes extérieures également du royaume sont gérées par les bureaux des fermes. Donc, en réalité, vous voyez, ceux qui servent l'État sont très diversifiés dans leur statut. Alors, pour revenir sur les offices, effectivement, il a ses offices de judicature, enfin, ses offices parlementaires, mais je pense qu'il n'a jamais mis un pied au Parlement.
Oui, ils sont
enfin, sauf le jour de la réception, évidemment. Mais parce que en fait, il a besoin d'être maître des requêtes pour pouvoir, à un moment donné, gérer un certain nombre d'affaires du roi. Et j'allais dire, ça fait partie du cursus honorum. Et c'est là où je le distinguais tout à l'heure de Pelletier et de Chamillard. C'est que eux ont vraiment exercé au départ des charges de juriste, de parlementaire. Lui, et donc ils ont aussi l'esprit de corps. C'est-à-dire, ils vont servir le roi, mais ils ont... c'est vrai que l'historiographie actuelle, avant on disait, bon, les parlements, le roi, sûrement un peu influencé par ce qui se passe au 18e siècle, c'est pas la même culture politique, ils sont en opposition. On est un peu revenu sur ça. C'est quand même des gens qui se marient entre eux. Enfin bon, et on voit des Chamillards qui deviennent ministres des Finances ou des Le Pelletier. Bon, donc il y a des passages. Il n'y a pas d'opposition aussi caricaturale qu'on l'a vu.
Mais en l'occurrence, Nicolas Desmarais brûle les étapes.
Oui,
donc n'a pas cet esprit de corps.
Mais lui, il est vraiment toujours que du point de vue de l'État. C'est-à-dire, il n'a jamais véritablement exercé une mission pour le Parlement. Enfin, il a l'œil de l'État. Et on y reviendra, il ne pense que par l'État.
Anne Gonchon, vous souhaitiez réagir?
Oui, à propos des offices, parce qu'il y a effectivement l'office dont il vient d'être question, mais il ne faut pas oublier la somme absolument colossale pour devenir directeur des finances. C'est 800 000 livres tournois. Donc de la même façon, il est incapable de débourser une telle somme et il y a effectivement cette intrication entre un administrateur de l'État, mais qui pour pouvoir financer ce qu'on appelle la finance de son office, emprunte à des financiers. Donc il y a cette intrication entre un personnel d'État et des milieux financiers, ce qu'on appelle les manieurs d'argent. Donc on a effectivement ce premier point. Et puis le deuxième point, c'est que Nicolas Desmarais, dans sa politique, somme toute classique, sa politique financière qui ne dépareille pas d'autres contrôleurs généraux, va utiliser comme expédient ces ventes d'office. C'est-à-dire que voilà, c'est un dispositif parmi d'autres pour pouvoir abonder les caisses de l'État. Et la rigueur budgétaire en matière de vente d'office, elle sera très très tardive après la fin de la guerre de succession d'Espagne.
Cela dit, Stéphane Guerre, on a dit que Nicolas Desmarais se tourne vers son père dans un premier temps, à l'époque d'une certaine jeunesse, on va dire, pour financer ce premier poste, entre guillemets. Mais il faut peut-être aussi souligner, et j'étais étonnée en lisant cela dans votre ouvrage, très rapidement, le rôle du roi Louis XIV lui-même, qui lui facilite la vie à bien des égards, sur les dispenses d'âge minimum, sur le rachat de ses charges. Très rapidement, on a l'impression qu'il est l'élu, quelque part.
Alors ça, c'est vraiment l'effet Colbert, hein. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, les charges de judicature, il a jamais l'âge. Il y en a certaines qui lui sont carrément remboursées par le roi. Donc c'est vraiment, il est déjà au cœur du pouvoir. Il a pas besoin de gravir les échelons. Il est au cœur du pouvoir. Lui, son problème, c'est qu'il va descendre les échelons et qu'il va devoir remonter. Mais là, il est jeune, il est au cœur du pouvoir et il a de suite des moyens assez considérables. Saint-Simon. Alors Saint-Simon est intéressant parce que on y reviendra. Il est souvent décrit par toutes les sources comme un homme corrompu. Et voilà. Saint-Simon, qui pourtant ne l'aime pas trop, comme je l'ai dit, ne dit jamais ça. Par contre, il nous dit, tiens, quand même qu'il était intendant des finances, jeune intendant des finances, il s'achète des propriétés en Normandie qui payent quasiment comptant, ou très rapidement, et ça fait naître des soupçons. Les gens commencent à parler à la cour.
Alors effectivement, cette trajectoire de Nicolas Desmarets est assez fulgurante d'un point de vue administratif, mais aussi d'un point de vue social. Et on a mentionné déjà son mariage avec Madeleine Béchamel, hein, fille de Marie Colbert et du marquis Louis Béchamel en 1873, qui lui apporte quand même une dot assez conséquente dont il va effectivement faire usage. Et il acquiert de nombreuses résidences, un hôtel rue Vivienne en 1676, un hôtel particulier à Fontainebleau l'année suivante, une demeure à Saint-Germain-en-Laye pour suivre le roi dans ses déplacements en 1679, puis en 1680 une deuxième résidence à Fontainebleau, parce qu'après tout, pourquoi pas, mais aussi de nombreux achats fonciers en Normandie, et en particulier à Maillebois, à 90 km de Paris. Stéphane Guerre, est-ce qu'il a les moyens de toutes ces dépenses, ou est-ce qu'on est là face à quelqu'un qui connaît très bien les arcanes de la finance, mais sans doute beaucoup.
Enfin, c'est très compliqué de vous répondre, puisqu'on y reviendra. Alors, la question que vous posez et recoupe un peu celle que vous avez posée précédemment. C'est les liens, on a entendu Daniel Dessert, c'est les liens entre pouvoir et finance. Pour aborder ce type de personnage et, on va dire, l'État de manière générale, si on pense comme nous avec cette idée que le pouvoir, la finance, enfin, il y a des revenus déclarés, on doit pas toucher les pots de vex, ça marche pas comme ça du tout. Ça marche pas comme ça du tout. Et ça, c'est Daniel Dessert qui l'a bien montré. Comme l'a dit Anne, pour devenir directeur des finances, il est obligé de faire un montage financier avec des financiers dont il va être quand même le juge dans l'exercice de sa charge, et là même des subordonnés à lui, des intendants des finances comme Comartin, qui participent. C'est-à-dire que ça parasite même le rapport hiérarchique, j'allais dire bureaucratique. Et tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand les fermiers signent un contrat, ils font un don en argent au ministre des Finances. Et c'est totalement accepté. Alors, c'est peut-être pas su du public, mais c'est accepté dans les sphères de l'État. Joël Cornette, dans un ouvrage, dit de manière un peu... peut-être pas excessive, de manière un peu brutale, que c'est un État gangréné par le clientélisme et la corruption. Par rapport à nos normes à nous. Alors, évidemment, du coup, je réponds à votre question, c'est que moi, je me suis amusé à essayer de comptabiliser les revenus que je pouvais cerner grâce au papier. J'ai fait une estimation des possibles pots de vin, mais au doigt mouillé. Mais en réalité, il est très difficile de savoir s'il n'y avait pas d'autres sommes qui circulaient. Alors, évidemment, avec nos normes à nous, on trouve ça tout à fait immoral, illogique, anormal, etc. Mais je vous dis, c'était quelque chose qui était tout à fait courant. Alors, la question qui se pose avec lui, c'est qu'à un moment donné, on a sifflé la fin de la récréation et qu'il a été disgracié. Et la question, c'est pourquoi tout d'un coup le roi met une norme ou une séparation entre pouvoir et finance à ce niveau. Qu'est-ce qu'il a fait que lui va être désigné à la vindicte populaire, puisque sa disgrâce est publique, alors que finalement c'est des pratiques relativement tolérées.
Une disgrâce publique que là encore Saint-Simon racontait dans ses mémoires.
Tout à la fin de la vie de Monsieur Colbert, on s'avisa de faire à la monnaie une quantité de petites pièces d'argent de la valeur de 3,5 sous pour la facilité du commerce journalier entre petites gens. Desmarets avait acquis plusieurs terres, entre autres Maillebois et l'engagement du domaine de Châteauneuf en Thimerois dont cette terre relevait, et quantité d'autres sortes de biens. Il avait fort embelli le château bâti par Dot, surintendant des finances d'Henri III et d'Henri IV. Il en avoit transporté le village d'un endroit à un autre pour orner et accroître son parc, qu'il avoit rendu magnifique. Ses dépenses, si fort au-dessus de son patrimoine, de la dot de sa femme et du revenu de sa place, donnèrent fort à parler. Il fut accusé ensuite d'avoir énormément pris sur la fabrique de ses pièces de 3,5 sous. Le bruit en parvint à la fin à M. Colbert, qui voulut examiner et qui tomba malade de la maladie prompte dont il mourut. Preuve, doute ou humeur. Je n'assurerai lequel des trois, mais ce qui est vrai, c'est que de son lit, il écrivit au roi contre son neveu, qu'il pria d'ôter des finances, et à qui il donna les plus violents soupçons contre lui. Colbert mort et Pelletier contrôleur général de la façon de Monsieur de Louvois, à qui Monsieur Le Tellier était intimement attaché de toute sa vie, le roi lui donna ordre de chasser des marais et de lui faire une honte publique. Il manda des marais et prit son moment à une audience publique. Là, au milieu de tous les financiers qui rampaient et tremblaient 8 jours auparavant devant lui, il appela des marais et tout haut pour que tout ce qui était là n'en perdît pas une parole. « Monsieur Desmarets, lui dit-il, je suis fâché de la commission dont je suis chargé pour vous. Le roi m'a commandé de vous dire que vous êtes un fripon, que Monsieur Colbert l'en a averti. Qu'en cette considération, il veut bien vous faire grâce, mais qu'entre 6 et 24 heures, vous vous retiriez dans votre maison de Maillebois sans en sortir ni en découcher et que vous vous défassiez de votre intendance des finances dont le roi a disposé. » Desmarets, éperdu, voulut pourtant ouvrir la bouche, mais Pelletier tout de suite la lui ferma par un « Allez-vous-en, monsieur Desmarets, je n'ai pas autre chose à vous dire. » Et il lui tourna le dos.
Et c'est ainsi que chuta Nicolas Desmarets dans cet épisode assez violent tel qu'il est raconté, Stéphane Guerre.
Alors, pas exactement. Alors, c'est très intéressant sur Saint-Simon, parce que là, vous voyez, c'est un montage de vrai et de beaucoup de faux. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, à un moment donné, la richesse de ce jeune intendant des finances fut-il le neveu de Colbert à interroger, surtout au moment de l'affaire. Ensuite, là, j'allais dire toute la deuxième partie du récit est intégralement fausse. Colbert n'a jamais disgracié. Alors, en plus, Saint-Simon est toujours habile parce qu'il nous laisse entendre qu'il est quasiment mort de chagrin.
Exactement. Oui.
Mais en réalité, pas du tout, puisque quand Colbert meurt le 6 septembre 1683, si j'ai de bonne mémoire, c'est Desmarets qui va gérer le ministère avec Pussor jusqu'à la nomination de Claude Le Pelletier. Donc, il n'y a pas question de disgrâce. Et d'ailleurs, Le Pelletier le garde comme intendant des finances. Donc,
chronologiquement, on ne s'y retrouve pas.
Ouais, puis alors sur Colbert, c'est totalement faux. Mais alors, l'espèce de disgrâce, enfin le spectacle de la disgrâce avec la foudre royale qui s'abat via Le Pelletier en plein milieu de la cour et des financiers qui rampent et l'homme qui tourne le dos. Enfin bon, c'est très beau. C'est ce que j'ai dit, c'est Saint-Simon. Mais c'est intégralement faux puisque cette démission forcée, cette révocation de l'intendance des finances, c'est Seignelay qui va la demander, donc son cousin. C'est-à-dire que le roi n'organise pas un esclandre public, mais justement utilise le cousin de Desmarets qui se rend à sa demeure, qu'il prévient, justement pour amortir d'une certaine manière. Et donc, ce récit est totalement faux. Par contre, ce qui est juste, c'est que c'est... alors, on va y revenir, mais c'est une forme de mort sociale. C'est-à-dire que Louis IV... Alors, il perd ses charges. Plus tard, celle de maître des requêtes, un peu plus tard, parce qu'on sent que le roi hésite un peu quand même, il attend de voir. Il n'a plus le droit d'accéder à la cour. Et donc à la Fontaine de Grâce qu'est le roi, ce qui est un gros problème à son niveau. Et il connaît cet exil intérieur au Royaume de France. Il ne doit pas quitter sa demeure normande. Alors ce qui est très amusant, c'est que comme il a quand même des affaires financières qui continuent de tourner à Paris, il envoie sa femme, qui est un personnage très intéressant parce qu'elle va passer, j'allais dire, son mariage à faire des affaires financières. Ça permet de relativiser un petit peu. C'est une femme qui connaît les affaires. Dans le testament de Desmarets, on voit qu'elle doit de l'argent, enfin, parce qu'elle a des... Et donc, il lui fait totalement confiance. C'est aussi la femme d'un grand financier. Hein. C'est la mort sociale, mais c'est une sanction disciplinaire, ce n'est pas une sanction judiciaire. Et c'est là où il faut quand même relativiser. C'est-à-dire, c'est pas Fouquet non plus. Il n'y a pas un tribunal exceptionnel qui le juge et qui l'embastille jusqu'à la fin de ses jours. Donc, ça veut dire que il y a une sanction très forte du point de vue, on va dire, de la vie courtisane et même du clan Colbert. Il est d'une certaine manière, le roi le traite de fripon, ça pour le coup c'est vrai, le traite comme un fripon plutôt. Donc là, effectivement c'est très dur, mais c'est quand même amorti par le fait que d'abord c'est Seignelay qui l'avertit, contrairement à ce que dit Desmarets, et puis ce que dit Saint-Simon, et puis surtout, il n'y a pas de sanction judiciaire. Alors que Un autre homme va subir les foudres de la sanction judiciaire, c'est ce conseiller italien de Colbert, Bellinzani, qui, lui, va être enfermé à la Bastille et dont le chancelier Letellier voulait organiser un procès. Et il a bonne idée de mourir au début de 1684 et donc, du coup, il n'y aura pas ce procès.
Anne Ganchon, on le comprend, la sanction n'est pas judiciaire, mais elle est très symbolique, sociale aussi. Une des raisons... Parce qu'on a, dit quand même qu'il y avait beaucoup d'affaires de corruption, qu'il y avait un certain clientélisme qui régnait, donc une certaine habitude du fait, si on peut le formuler comme ça. On pourrait s'étonner qu'il y ait sanctions, notamment vis-à-vis d'un personnage qui jusqu'ici avait fait preuve de compétence, était, on va dire, socialement bien accepté et valorisé. Et il faut peut-être revenir aussi sur cette affaire finalement qui fait un peu tout exploser. C'est cette histoire de manipulation aussi de la monnaie, cette affaire des 4 sous. La monnaie aussi a un statut très particulier à cette époque-là qui explique peut-être aussi la rudesse de la décision.
Alors c'est une affaire qui est une affaire de refonte monétaire qui est l'affaire des quatre, ce qu'on appelle l'affaire des quatre sols, qui explique en grande partie cette disgrâce de Nicolas Desmarais. Donc on a effectivement c'est une petite monnaie somme toute, mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est effectivement la capacité quand même. Alors, ça a été dit, de Desmarais à pouvoir surmonter sa disgrâce à distance, mais surtout de pouvoir rétablir son crédit rapidement. Et donc, on a effectivement cette capacité de Desmarais à pouvoir se redonner un crédit social et un crédit politique après sa disgrâce.
Et Stéphane Guerre, et ensuite, il faut qu'on redonne son éclat à Desmarais.
En fait, la monnaie, bon, c'est un des pouvoirs, on va dire, régaliens par essence. Et sur les pièces, il y a la face du roi. Donc, et là, il y a une affaire de fausse monnaie. Pour aller très vite, Colbert confie la production. Officiellement, c'est pour faire circuler la petite monnaie, pour permettre une consommation monnaie dans une économie sous-monétarisée dans les campagnes. En réalité, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est une manière de l'État de se faire de l'argent grâce à cette monnaie qui contient moins d'argent. Et donc, on crée un bail, on afferme, hein, comme on le disait tout à l'heure, à des financiers, donc ils doivent produire des pièces, et en fait, ils en produisent plus que ce qui est prévu, et donc ils produisent pour 9 millions de livres de manière clandestine pour gagner encore plus d'argent. Alors, ça fait scandale, mais Desmarais n'est jamais accusé d'avoir participé à cette affaire de fausse monnaie. Alors, contrairement à ce que disaient les sources qui confondent les deux affaires, ce qui lui est reproché, c'est ce que dit Pelletier d'un mémoire, c'est intérêt de corruption. C'est d'avoir facilité, en fin de compte, cet affermage en touchant des pots de vin. Et c'est là, je vous disais, c'est tout à fait étonnant, parce qu'en réalité, c'est une pratique qui... lui parle de... Parce qu'il va finir par l'avouer dans un de ses mémoires, il parle de faute de jeunesse, Desmarais. Donc, finalement, il décrit des papiers, des mémoires pour nous expliquer qu'il est victime d'un complot, mais enfin, au détour de l'un, il dit, et Torcy, pareil, plus tard, il est faute de jeunesse. Donc lui, il pose un problème moral. Mais là, je pense que ce qui se joue, c'est que c'est les monnaies, et on rigole pas avec les monnaies. Et la deuxième chose, comme l'a dit Anne tout à l'heure, c'est que c'est l'opportunité pour le clan Letellier, j'allais dire, de se débarrasser d'une des forces vives du clan adverse. Alors, sans parler du complot auquel veut nous faire croire Desmarais pour faire oublier ses petits arrangements avec la vérité, il n'empêche que c'est l'occasion pour ce clan de frapper un grand coup.
Cette disgrâce advient en 1683, nous l'avons dit, qui est aussi l'année de la mort de Colbert. Et ce n'est que le 19 septembre 1703 que Desmarais parvient à obtenir une entrevue à nouveau avec le roi. Il le dit d'ailleurs, ça fait 20 ans que je n'avais pas vu le roi. C'est le début de la sortie du tunnel, on pourrait le dire ainsi. Il revient donc un peu plus près du centre du pouvoir, même si, vous l'avez dit, Stéphane Guerre, il ne l'a jamais vraiment quitté en sa qualité de conseiller, ses allers-retours aussi vis-à-vis de la cour. Et puis les choses se concrétisent véritablement. Le 20 février 1708, il est officiellement nommé contrôleur général des finances. Je vais un peu vite en besogne, car cette émission n'en a plus pour très longtemps non plus. Anne Ganchon, qu'entreprend Nicolas Desmarais lorsqu'il arrive à ce poste ?
Alors, il a, c'est un des contrôleurs généraux extrêmement intéressant parce qu'il est confronté à des crises au pluriel. Il y a effectivement la crise de la guerre et du financement de celle-ci, puisque la monarchie est en guerre depuis 1701 avec la guerre de succession d'Espagne. Donc il y a effectivement la nécessité d'assurer l'approvisionnement des troupes, de financer les soldes des soldats, de financer les alliances. Et donc il y a effectivement une politique financière absolument cruciale pour démarrer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est confronté à plusieurs facteurs de crise. C'est-à-dire qu'il y a par ailleurs la crise de l'hiver 1709, donc une crise qui est une crise frumentaire, donc ça vient s'ajouter.
Les années de glace, comme on le dit. Oui.
Voilà, à l'agenda du contrôleur général. Et puis également, comme dans pratiquement tout conflit, une crise économique et notamment des difficultés commerciales. Donc quand il arrive effectivement au contrôle général en 1708, il va arriver dans un moment de tourmente à plus ou moins longue échéance. Et tenir la barque jusqu'en 1715.
Et à cela, il faut rajouter que ça fait longtemps aussi que la France connaît une forme de crise économique aussi, depuis au moins une bonne vingtaine d'années, si ce n'est un peu plus. Et on commence d'ailleurs à se préoccuper de l'État, entre autres du peuple, et de la façon dont il vit aussi cette crise. Stéphane Guerre, lorsque Nicolas Desmarets revient au pouvoir, quelque part, en tant que ministre des Finances, est-ce qu'il a véritablement la main sur les dépenses ? On a vu que c'était un homme de recettes, mais est-ce qu'il a la main sur les dépenses ?
C'est là, c'est intéressant, c'est là où c'est un cas à part. Parce qu'il revient précédé de sa réputation d'expert. Donc il a une autorité avant l'exercice du pouvoir. D'ailleurs, lui-même, dans les mémoires, avait critiqué le Pelletier en disant que quelqu'un qui connaît rien aux finances ne peut pas être respecté par ses subordonnés. Donc lui, déjà, il apparaît comme l'élève de Colbert. Il a fondé l'administration avec Colbert, pour aller vite dans l'esprit des gens, l'administration des finances. Ensuite, il a le réseau. C'est-à-dire, il a les Colbert, il a les lobbies financiers, etc. Et lui-même est un homme qui s'est marié avec une femme de financier. Donc, il est complètement dans ce réseau-là. Et donc, comme le dit Madame de Maintenant, il est accueilli par les gens d'affaires de manière extrêmement favorable. Après le terrible Chamillard qui comprenait rien, là, tout d'un coup, et Desmarets a une spécificité sur tous les ministres des Finances, c'est qu'il emploie les financiers, mais il ne veut jamais les faire payer. C'est-à-dire, il les emploie en disant, il faut leur donner confiance, il faut... En gros, c'est un prouvement de ville avant l'heure. C'est-à-dire, leur intérêt égoïste, il faut le mettre au service de l'État et ne pas essayer de les sanctionner. Et il accepte même qu'ils donnent des conseils, c'est-à-dire, il faut canaliser leurs conseils, même une forme de lobby. Et donc, quand il arrive, et il connaît tout le ministère, donc il vient d'être directeur des finances, il arrive avec tout ça. Et alors, et c'est là où le personnage est très intéressant, c'est que évidemment il va utiliser un certain nombre d'expédients, mais c'est sa capacité d'innovation. Comme son cousin Torcy, à la fin du règne, on a ces deux personnages et d'autres qui sont un petit peu des réformateurs internes, c'est-à-dire ils veulent pas du tout chambouler le système, mais ils sentent bien qu'il faut modifier un certain nombre de choses. Et donc il va avoir une tentative de créer une banque. D'ailleurs officiellement elle est créée, il y a un arrêt des finances, elle dure un mois. Bon. Oui. Mais c'est pas John Lass, mais donc il y a ces tentatives, il y a des projets de créer une bourse. Évidemment, il y a l'impôt du dixième sur lequel on reviendra, où il invente la déclaration de revenus et aujourd'hui le prélèvement à la source. Alors évidemment, c'est une lecture un peu depuis notre époque. Et donc on a toute une série de projets comme ça. Alors le problème, c'est que tout ça est percuté en permanence par une situation militaire qu'il ne maîtrise pas. Et d'habitude, comme vous l'avez compris, souvent c'est le ministre de la guerre qui, avec Louis XIV, décide des dépenses et en fin de compte, si j'enlève Colbert, les autres ministres des Finances courent après.
Oui.
Voilà, suivent. Avec lui, ça se passe pas comme ça parce qu'à partir de 1710, les liasses s'organisent à trois. C'est-à-dire, il y a le ministre de la guerre, il y a le ministre des Finances qui est démarré, il y a Louis XIV. Pourquoi ? Parce que Louis XIV comprend, d'une certaine manière, en fin de compte, jusqu'alors, c'est ce que disait Alain Guéry, le roi commande et puis l'intendant suit.
Suivra,
et là, à cause de la situation financière, il comprend que sa volonté, son désir royal a des limites. Et donc, il organise lui-même une collaboration totalement inédite entre la guerre et les finances, en gros jusqu'à Donain, pendant 2 ans. Et il y a toute une série de sujets. Desmarets en profite pour, agrandir ou élargir son pouvoir, par exemple sur la disette ou sur un certain nombre de choses comme ça. Ça lui permet un petit peu de mordre sur les départements de la marine et de la guerre.
Anne Canchon, il est intéressant ce contexte d'effervescence, d'innovation, comme on le disait à l'instant, puisque on parle aussi d'innovation fiscale. Alors là, il faut aborder ce fameux dixième. Qu'est-ce que Nicolas Desmarets cherche à mettre en place, encore une fois, pour remplir les caisses de l'État, car c'est bien là le problème majeur.
Oui, alors sur la partie innovation, ce qui est très intéressant dans le ministère de Desmarets, c'est justement sa capacité à forger de nouveaux outils alors de suivi comptable, avec aussi une épaisseur chronologique pour mettre en perspective le dérapage budgétaire, si on passe l'expression. Et ce qui est très intéressant, il y a effectivement des innovations fiscales. Et ce qui est intéressant chez Desmarais, c'est qu'il a un projet de il discute la capitation. Donc il a un projet de capitation qui est pas exactement celui qui sera adopté en 1695. Il a dans un des manuscrits un projet de transposition d'un impôt qui est la Hearth Tax en Angleterre, qui est un impôt sur les cheminées. Donc il y a une réflexion fiscale de transfert qui est intéressante, et effectivement il est connu, et sa mémoire survit et reste attachée fondamentalement effectivement à cette réforme du dixième, qui est un impôt de quotité, donc 10% sur l'ensemble des revenus, qui sont des revenus de la propriété foncière, des loyers ou d'autres choses. Donc il y a effectivement cette innovation fiscale qui a beaucoup de mal aussi à passer auprès des contribuables, puisqu'il faut faire une déclaration d'impôt. Il y a un magnifique travail de Richard Bonnet pour expliquer effectivement les résistances à l'égard de cette innovation qui est le dixième, puisque un certain nombre de contribuables, à commencer par la noblesse, qui est imposée à cet impôt, considèrent que c'est attentatoire au secret des familles.
Et puis, Anne Conchon, il y a cette effervescence fiscale, on pourrait la qualifier ainsi, et puis il y a aussi la décision prise en mai 1708 de créer 6 intendants du commerce. Comment comprendre cette initiative-là ? Pourquoi Desmarais s'intéresse à ce point au commerce ?
Alors, effectivement, on a généralement tendance à associer, voire à réduire parfois Nicolas Desmarais uniquement aux affaires fisco-financières, en oubliant effectivement qu'il y a plus largement une politique mercantiliste, mais en même temps adoucie, c'est-à-dire qu'on voit très bien que Desmarais, notamment dans la gestion de la crise de 1709, renoue avec un interventionnisme en matière de gestion de crise frumentaire, mais a aussi quelques années ou quelques mois avant proposé un assouplissement de ce qu'on appelle la police des grains. Et puis plus largement, il y a effectivement l'idée qui subsiste et qui est très largement pour le coup associée à une politique dite mercantiliste, c'est-à-dire une politique commerciale, avec l'idée de développer le grand commerce, de lutter contre la concurrence jugée déloyale de l'Angleterre, notamment sur l'importation de pots de castor venant des colonies anglaises. Et puis, la volonté de doter l'État d'institutions ou d'acteurs préposés directement à la politique commerciale. Donc ces fameux intendants de commerce qui sont le pendant des intendants de finances, mais aussi c'est quand même sous son ministère qu'on a ce qu'on appelle la balance du commerce, c'est-à-dire un suivi fin de la politique commerciale d'entrée et de sortie des produits du Royaume de France.
Donc on comprend pour la première fois, des charges sont spécifiquement dédiées aux affaires commerciales. On pourrait se dire, c'est encore un moyen de créer donc des façons de remplir les caisses de l'État, mais c'est quelque chose de plus structurel que cela, finalement, Stéphane Guerre. Est-ce qu'on peut dire de Nicolas Desmarais que c'est un mercantiliste, qu'il avait cette vision-là tout
Alors, moi je suis toujours un peu... Alors, c'est le mot mercantiliste, on l'emploie tous, mais personne ne s'est déclaré mercantiliste, et on a regroupé... Alors, c'est les économistes libéraux qui ont regroupé toute une série... Enfin, tous leurs adversaires des époques précédentes dans une espèce de boîte mercantiliste. Alors, tout le monde est mercantiliste ou colbertiste, si c'est Colbert. Oui. Bon, en réalité, c'est des gens très différents, parce que effectivement, il y a des gens qui sont plus théoriciens, comme Chrétien, et on met Colbert qui, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas particulier. Enfin, bon, donc, si le mercantilisme existe, je dirais que c'est effectivement une économie qui est pensée du point de vue de l'État. C'est-à-dire que, contrairement... Alors, on a aussi une vision très caricaturale. Ils ne sont pas contre la prospérité, ils sont pas contre la circulation. Hein. Philippe Minard, cet historien regretté, avait bien montré dans la fortune du colbertisme que en fin de compte, c'était beaucoup plus souple et qu'il n'y avait pas forcément d'opposition sur tous les points avec les libéraux. Mais, effectivement, pour eux, la prospérité et la prospérité économique doit servir la puissance de l'État. C'est ça, s'il y a un point commun, c'est cette idée-là. Et, mais comme l'a dit Anne, Nicolas Desmarais, pourtant, vous voyez, il a écrit un mémoire un peu opportuniste quand il était en disgrâce, où il pense qu'il faut, par la consommation, enfin, il le dit comme ça, augmenter les salaires dans certains secteurs pour les gens qui consomment plus. Effectivement, il a assoupli en 1708, il est d'accord pour exporter les grains, y compris dans des pays comme le Portugal, en utilisant des... alors qu'on est en pleine guerre. Donc, il a une vision plus souple, mais faut quand même pas non plus exagérer. Évidemment, c'est pas Turgot non plus. Mais ça, c'est un personnage qui est intéressant pour montrer que ce mercantilisme, qu'une expression, c'est un art de gouverner, mais qui évidemment est beaucoup plus complexe que la caricature qu'on en a parfois.
Stéphane Guerre, très rapidement, en une dizaine de secondes, qu'est-il advenu de Nicolas Desmarets après la mort du roi ?
Nicolas Desmarets, de nouveau, a connu une disgrâce puisque dès la mort du roi, il a été licencié ou enfin révoqué, excusez-moi, par le raisin. Et alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là ? Il écrit des mémoires, et comme d'habitude, qui c'est qui va lui demander des mémoires ? Eh bien, c'est tous les adversaires de John Lass au sein de l'État, et quand John Lass tombe, il va redevenir un conseiller occulte des ministres. Alors, John Lass, qu'il avait rencontré, la citation par laquelle vous avez ouvert sur « on ne fait pas de l'économie en géométrie »,
c'était à son attention.
C'est pour décrire la banque de Lass.
Merci infiniment, Stéphane Guerre, Anne Conchon, d'avoir participé à cette émission qui est à retrouver à la page d'Entendez-vous l'écho sur le site de France Culture.